Bonjour, cette édition de votre magazine est dédiée à notre ami Marc Minatel qui nous a quittés il y a quelques jours. Marc était technicien réalisateur à RFI depuis 25 ans. Nous pensons bien sûr à lui et à sa famille.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Beldic.
Samedi 25 avril, merci d'être au rendez-vous. Nous allons revivre 7 jours d'actualité, comme chaque semaine, à la même heure, bien sûr. Après le flash, nous partirons pour l'Afrique. Rendez-vous également avec vos messages. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission sur le site de la radio, www.rfi.fr. C'est Yann Mins, notre ami Yann Mins, qui nous accompagne. Il est, dois-je le rappeler, le rédacteur en chef du magazine Alternative Internationale. Bonjour Yann.
Bonjour.
Le numéro 66 vient de sortir.
Oui, il est sorti.
Sur les tablettes.
Absolument, il est à la fois sur papier et en version numérique pour ceux qui, notamment à l'étranger, peuvent difficilement trouver le magazine dans une maison de presse près de chez eux.
Ouais, alors donc ce numéro 66 a comme couverture, une belle couverture d'ailleurs, intitulée La planète djihadiste.
Oui, l'idée c'est de faire un peu le tour à la fois des thèmes autour du djihadisme et puis aussi le tour des mouvements, parce que je pense que beaucoup de lecteurs, d'auditeurs, de citoyens entendent parler de Boko Haram, Abu Sayyaf, Jabhat al-Nusra, autant de noms qui sont un peu mystérieux. Donc on essaie de présenter un peu ces différents mouvements, leurs spécificités, et puis aussi de traiter, ce que je disais, des thématiques sur le djihadisme. Qui sont les djihadistes, qu'est-ce que le djihad, comment ces mouvements sont organisés en interne, comment ils se battent, quels sont leurs buts politiques, etc., etc.
Allez, un petit rappel, Yann, sur Alternative Internationale, il faut rappeler ce que vous faites, quelle est votre mission, parler du monde sous toutes ses facettes.
Oui, alors Alternative Internationale est un magazine trimestriel qui traite effectivement tous les aspects de l'actualité internationale, c'est à la fois évidemment les aspects les plus tristes, les plus évidents, ceux des conflits, ceux du terrorisme, tous ceux qui sont dans l'actualité, ceux de la migration méditerranée par exemple, et puis aussi des aspects plus moins visibles, des aspects de société, des questions sociales, des questions économiques qui sont parfois moins, notamment quand elles concernent des continents comme l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique latine, moins présents dans les médias français. Donc nous essayons de faire remonter tout cette information jusqu'à nos lecteurs, alors qu'effectivement, ils ne l'ont pas forcément beaucoup, de donner aussi, surtout, des clés de compréhension historiques, géographiques, etc., pour que nos lecteurs puissent mettre en perspective toutes les informations qu'ils reçoivent par ailleurs, par d'autres médias, par RFI, par exemple, qui puissent les mettre en perspective dans un temps un peu plus long et comprendre mieux les évolutions de longtemps.
Jours dans le monde.
Alors partons, Yann, sans tarder pour la Méditerranée, car cette édition d'une semaine d'actualité va bien sûr revenir sur la mort massive de migrants dans cette mer. Écoutez d'abord ce membre de la Croix-Rouge à Catane en Italie, interrogé mercredi par Juliette Garbrandt.
Nous devons nous rappeler que nous vivons dans un monde qui est global. Donc des jeunes qui aspirent à une citoyenneté mondiale et une sorte d'incitation à aller voir ailleurs. Ça peut être une histoire, ça peut être d'autres histoires. Nous savons ce qui se passe au Mali, au nord du Nigeria, qui est en train maintenant de faire tache d'huile avec le Cameroun et le Tchad. Et tout ceci crée des situations de vulnérabilité. Et dans la perspective de sortir de ces situations de vulnérabilité, les jeunes sont en train de développer des stratégies de survie qui malheureusement n'amènent pas à la survie, comme on l'a vu à travers ces tragédies. Et c'est également aussi un rêve qui peut-être est certes illusoire, qui quand même en est un, et qu'il faudrait peut-être ensemble essayer d'appuyer comme il le faut, offrir des opportunités là où les gens sont, mais également aussi trouver les moyens de faciliter pour ceux-là dont c'est l'aspiration ou le besoin nécessaire d'aspirer à retrouver cette dignité qu'ils auraient perdue pour une raison ou une autre.
Une autre voix maintenant, Yann Mins, celle de Bachar el-Assad, le président syrien, interrogé mardi sur la deuxième chaîne de la télévision publique française, autrement dit France 2. Il a affirmé que les services de renseignement français ont pris contact avec son régime.
Il y a des contacts, mais il n'y a pas de coopération. Que voulez-vous dire par contact ? Nous avons rencontré certains responsables de vos services de renseignement, mais il n'y a pas de coopération.
Il n'y a pas d'échange d'informations?
Non, rien du tout.
Alors pourquoi ces contacts?
Ce sont eux qui sont venus en Syrie et pas nous qui sommes allés en France. Ils sont venus peut-être pour un échange d'informations. Mais lorsque vous souhaitez établir ce genre de coopération, ça doit être dans les deux sens. Nous les aidons, ils nous aident en retour. Mais d'après vos hommes politiques et le gouvernement français, il faudrait les aider alors qu'ils soutiennent les terroristes et tuent nos citoyens. Ça ne marche pas comme ça.
Est-ce que c'est la France qui a demandé ces contacts avec vos services de renseignement?
Oui, nous les avons rencontrés. Il y a eu une réunion avec eux.
C'était une demande de la France?
Oui. Nous n'avons rien à demander aux services de renseignement français. Nous disposons de tous les renseignements sur les terroristes.
Une semaine d'actualité donc. Merci de votre fidélité.
Sept jours dans le monde.
Et avant de vous retrouver, Yann, un détour par l'Arabie Saoudite maintenant, qui a mis fin à son opération aérienne au Yémen, du moins à ce qu'elle appelle la phase intensive de cette opération, menée, doit-on le rappeler, avec une coalition de pays arabes. Correspondance de Clarence Rodriguez à Riyad, mercredi.
Tout laisse à penser que les raids aériens qui ont causé la mort de nombreux civils seraient une des raisons, d'autant que l'Organisation mondiale de la santé a publié ce mardi un bilan faisant état de 944 morts et de 3487 blessés. Le général Ahmed Asseri, porte-parole de cette coalition, précise également que grâce à la campagne aérienne menée contre les rebelles houthis, les menaces pesant sur l'Arabie Saoudite et ses voisins avaient été éliminées. Et de rajouter que les pays arabes continueront d'empêcher les miliciens chiites de se déplacer à l'intérieur du Yémen. Cela pourrait signifier implicitement que la coalition prévoirait en effet une intervention terrestre. Le roi Salman a d'ailleurs ordonné l'engagement de la garde nationale, une force armée de près de 120 000 hommes, des militaires recrutés dans les milieux tribaux. Des hommes qui ont une parfaite expérience et connaissance du terrain et notamment de la montagne. C'est donc la fin de l'opération Tempête décisive, mais le début d'une autre opération baptisée Opération Restaurer l'Espoir. Un espoir sans doute, car selon Abdelmalek Al-Ijri, un membre du bureau politique du mouvement chiite, la signature d'un accord politique est sur le point d'être finalisée.
Mais notez que ces derniers jours, il y a eu néanmoins d'autres bombardements saoudiens contre les Houthis. Donc une semaine d'actualité, Restore Hope, Restaurer l'Espoir, ça me dit quelque chose. Ça me rappelle quelque chose, Yann.
Oui, ça rappelle une opération en Somalie qui avait assez mal fini pour une partie des promoteurs et notamment les Américains qui s'étaient embourbés dans l'affaire somalienne avec de nombreux morts dans leurs troupes, sans compter évidemment les Somaliens.
Alors l'Arabie Saoudite qui dit qu'elle va arrêter son opération mais qui continue quand même ses bombardements.
Depuis le début, cette opération est étrange parce que l'Arabie Saoudite, à mon sens, est en train de créer ou de favoriser le danger qu'elle redoute. Il est évident que le mouvement houthiste a pris de l'ampleur et a contrôlé des territoires au Yémen. Mais il faut rappeler d'une part que le mouvement houthiste dans cette histoire n'est pas seul. Il y a un acteur dont on parle moins, je trouve, dans les médias en général. C'est l'ancien président Saleh, qui a très longtemps gouverné le Yémen jusqu'aux révoltes de 2011, qui a été ensuite écarté du pouvoir et qui aujourd'hui essaie de rentrer par la fenêtre. Et la fenêtre, en l'occurrence, c'est une alliance avec les houthistes. Or, l'ex-président Salé a des fidèles dans l'armée, notamment dans certains bataillons. Donc ce n'est pas uniquement une lutte entre des présumés chiites qui seraient les houthistes, qui sont une branche du chiisme mais pas la même que celle de l'Iran, et puis l'Arabie Saoudite. C'est un peu plus compliqué que ça. Par ailleurs, je ne crois pas que des bombardements aériens puissent résoudre la crise politique intra-yéménite, et là-dessus j'ai un sentiment que l'Arabie Saoudite n'a aucune proposition à faire. Tout ce qu'elle a essayé de faire visiblement, c'est d'affaiblir militairement les houthistes pour ensuite négocier avec eux en position de force. Il n'est pas sûr du tout qu'elle y soit arrivée. Par ailleurs, enfin, il y a un dernier acteur là qui est dans l'ombre, qui est Al-Qaïda. L'une des branches encore très vivaces d'Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda au Yémen, dans la péninsule arabique, justement. Et Al-Qaïda a profité de l'offensive saoudienne et de l'affaiblissement des houthis pour conquérir une ville, pour prendre un aéroport. C'est très inquiétant. C'est aussi inquiétant si cette offensive provoquait l'arrivée de djihadistes encore plus nombreux sur le sol du Yémen.
Alors Yann, on va parler des migrants en Méditerranée, bien sûr. Il y a une belle carte qui explique beaucoup de choses, comme souvent d'ailleurs dans Alternative Internationale. Mais il nous faut revenir un instant sur les propos de Bachar el-Assad en l'écoutant, il n'est responsable de rien.
Oui, ben, comme d'habitude, Bachar al-Assad fait quelque chose de classique, c'est que pour discréditer ses adversaires, il les traite de terroristes. Mmh. Alors terroriste, c'est un mot qui n'a pas de définition consensuelle ni officielle. On peut être le terroriste de quelqu'un, et à mon sens, s'il y a un terroriste dans cette histoire, c'est lui d'abord, puisque la plupart des victimes du conflit syrien sont le fait du régime, des bombardements du régime. On peut considérer qu'il applique une politique de terreur. Alors, est-ce que c'est parce que c'est pas un groupe individuel, un groupe armé? Est-ce que c'est parce qu'un État, ce serait moins de la terreur? Non, c'est également de la terreur. Quant au fait de savoir si Bachar el-Assad et les services français coopèrent, bah, visiblement, il faut croire la parole du président Assad. Il faut la prendre en tout cas pour ce qu'elle est.
Il coopère sans coopérer, visiblement.
Il dit qu'il y a des contacts, il n'y a pas eu de coopération parce qu'il n'y a pas d'échange possible et que les Français ne devraient pas échanger. Je me félicite que les services français ne veuillent pas échanger avec Bachar el-Assad. Maintenant, évidemment, la question, c'est de savoir s'il a vraiment des informations très utile pour les services français, ça eux seuls peuvent le dire.
Alors autre titre de l'actualité qui est aussi l'histoire, Yannin, c'est hier les commémorations, début du génocide arménien à Yerevan avec quasiment une grande partie de chefs d'État.
Beaucoup de chefs d'État, évidemment, avec l'absence du président Erdogan, le président turc, puisque la Turquie ne veut pas reconnaître la responsabilité de la Turquie dans ce qui s'est passé en 1915. Je dois dire que sur un plan plus général, je suis très mal à l'aise avec cette notion de génocide, parce que ça voudrait dire qu'il est plus grave de tuer un million et demi de personnes d'un groupe particulier que de tuer des gens au hasard. Par ailleurs, cette notion de génocide a été forgée après 1945, après l'extermination des Juifs par les nazis. Et du coup, ça a donné un statut un peu particulier à cet événement. Et on a le sentiment que d'autres peuples qui ont été victimes, d'autres groupes humains qui ont été victimes de massacres, de masse, évidemment, massacres de masse, veulent accéder à ce statut de génocide. Il y aurait une différence, en fait, entre ceux qui ont été génocidés et les autres. Je pense que cette gradation, cette espèce de hit-parade de l'horreur, est contre-productif. La gravité, c'est le nombre de victimes, c'est la façon
dont ils ont été exterminés. En l'occurrence, pour les Arméniens.
C'est le chiffre, effectivement, que donnent les Arméniens, qui ont été exterminés de différentes façons. Certains ont été exécutés, d'autres ont été laissés mourir, au moment notamment de très très longues marches et de camps dans le désert, etc. Donc, les gens qui ont été victimes de non-assistance à personne en danger n'ont pas été exécutés, mais on les a fait mourir à petit feu, si je puis dire. Et évidemment, ça donne une spécificité au massacre de masse en Arménie, comme il y a une spécificité à d'autres massacres au Rwanda. Mais la qualification de génocide est embêtante parce que personne n'a une définition extrêmement précise. Les tribunaux internationaux ont donné plusieurs successifs, je crois. Et du coup, je pense que ça crée une concurrence des mémoires qui est extrêmement dangereuse.
En tout cas, la Turquie reconnaît, ne parle pas évidemment de génocide.
Bien entendu.
Semaine d'actualité, Pierre-Edouard Beldic.
Alors Yann, ces jours derniers, Le Monde a comme découvert le drame des migrants méditerranéens qui dure pourtant depuis des années, après donc la tragédie du week-end dernier, quand le naufrage d'un chalutier a fait jusqu'à 800 morts, semble-t-il, à Catane en Sicile, reportage de Juliette Garbrandt, lundi.
Le Gregoretti, avec à son bord 27 rescapés du naufrage de dimanche dernier, est arrivé peu avant minuit sur le port de Catane, attendu par une foule de journalistes venus de toute l'Europe. Des habitants de la ville étaient là également, en petit nombre. Certains criaient leur colère. Le droit d'asile pour ne plus mourir, ce massacre doit finir, scandait une quinzaine de personnes. D'autres avaient apporté des fleurs pour les offrir aux rescapés, mais les autorités ne les ont pas laissés passer. Selon la porte-parole du HCR, les survivants sont arrivés éprouvés, fragiles, et ils étaient impressionnés de voir tant de monde sur le port. Parmi eux se trouvaient deux de leurs trafiquants, le commandant du bateau, un Tunisien, et son second, originaire de Syrie, inculpé d'homicide et immédiatement arrêté par la police. Les autres ont rejoint un centre de premier accueil à Mineo, près de Catane. Il y aurait eu 800 personnes, finalement, à bord du bateau qui s'est renversé à l'approche des secours, lorsque les passagers se sont précipités du même bord pour attirer l'attention dans l'espoir d'être sauvés.
Jeudi, les dirigeants européens impuissants jusqu'ici se sont réunis en urgence pour tenter de trouver une solution à cette crise humanitaire, qui est plus qu'une crise humanitaire d'ailleurs. Envoyé spécial à Bruxelles, Daniel Valo.
C'est le chef du gouvernement italien Matteo Renzi qui avait défendu le premier ce projet, détruire les embarcations utilisées par les trafiquants afin de réduire réduire le nombre de tentatives de traversée et donc le nombre de naufrages. D'abord réticents en raison des difficultés matérielles et juridiques posées par ce projet, les partenaires de Matteo Renzi ont donc finalement accepté de le soutenir. Mais à une condition et de taille, il faudra au préalable obtenir un mandat des Nations Unies. François Hollande l'a confirmé dès hier soir, la France déposera une résolution devant le Conseil de sécurité afin d'obtenir ce mandat. Et il a également affirmé qu'il tenterait personnellement de convaincre le président russe Vladimir Poutine d'approuver cette résolution. Cela n'a rien d'évident car pour frapper les trafiquants, il faudra agir dans les eaux territoriales de la Libye. Or, la Russie continue de reprocher aux pays occidentaux d'avoir abusé il y a 4 ans d'une précédente résolution concernant la Libye pour s'en prendre militairement au régime de Kadhafi.
Suite d'une semaine d'actualité, alors Yann, vous suivez ce dossier depuis des années parce que Alternative Internationale en parle depuis des années de cette question des migrants. Dans ce numéro, en l'occurrence, il y a une carte très explicite, très claire, qui montre les routes de migration. Quel est votre regard sur ce qui s'est passé ces derniers jours?
Je vais faire une comparaison avec la Syrie. Les pays occidentaux et les pays européens singulièrement se sont préoccupés de faire quelque chose à propos de la Syrie quand Bachar al-Assad a utilisé des armes chimiques contre la population. C'est-à-dire quand on a vu à la télévision des centaines de gens, des centaines de cadavres, et notamment de cadavres de jeunes enfants, morts à la fois. En revanche, le fait que la Syrie balance des barils de poudre tous les jours ou presque contre des populations civiles qui tuent à chaque fois des nombres moins importants, c'est moins médiatique, ça choque moins. En Méditerranée, quand il y a un bateau avec 40 personnes, 20 personnes, 30 personnes qui coulent, ça fait pas beaucoup de réactions, c'est perlé, c'est un peu de temps en temps, on finit par s'y habituer. Quand c'est 800 d'une fois, tout d'un coup, ça fait un choc dans l'opinion, et quand ça fait un choc dans l'opinion, ça fait aussi un choc dans les gouvernements, et on se dit il faut faire quelque chose, enfin.
Alors ce qui frappe, Yann, c'est l'impuissance de l'Europe. Finalement, il faut préciser aussi que l'Union européenne et l'Union africaine vont organiser prochainement, semble-t-il, un sommet consacré à la question de l'immigration. Ça, c'est la vraie question.
Oui, sauf que dans l'immigration, il faut distinguer plusieurs motivations, et le responsable de la Croix-Rouge qui était interviewé tout à l'heure à Qatar le disait justement. Il y a évidemment tous ceux qui fuient des conflits, tous ceux qui fuient des dictatures et qui sont susceptibles d'obtenir le statut de réfugié politique, un asile. Et puis il y a tous les migrants économiques, les gens qui viennent de pays où il n'y a pas de travail simplement et qui veulent tenter leur chance en Europe. Et puis, comme le disait le responsable de la Croix-Rouge, il y a aussi ceux qui rêvent, ceux qui ont envie de partir, etc. Bon. L'Europe a, en matière d'immigration économique, des règles très strictes, et aujourd'hui il est très difficile de venir simplement pour travailler, si c'est pas dans le groupement familial, de venir travailler en Europe, sauf à être très diplômé, etc. En revanche, pour l'asile, elle a des règles qui sont beaucoup plus claires, puisque ce sont les règles de la Convention de Genève. Le problème, c'est que pour obtenir l'asile en Europe, il faut arriver jusqu'en Europe pour pouvoir déposer sa demande. C'est pour ça que tout un tas de gens prennent les routes les plus dangereuses, essayent d'arriver en Europe, de toucher le sol européen, et dire « je demande l'asile politique ici ». Donc la difficulté, c'est ça, c'est que les gens sont incités à prendre tous les risques pour avoir une chance de demander l'asile politique en Europe. La question, c'est de savoir s'il faudrait mieux pas, c'est compliqué à faire, traiter les demandes en amont, c'est-à-dire par exemple que les demandes de réfugiés politiques des Syriens soient traitées au Liban, en Turquie, en Jordanie, là où sont les réfugiés. Bien entendu, c'est compliqué, bien entendu, ça supposerait de doter les consulats et les ambassades de moyens très importants, bien entendu, ça susciterait beaucoup de demandes, mais on peut se demander s'il ne faudrait pas faire ça en amont plutôt que de laisser les gens prendre tous les risques et mourir, et que nous allions les secourir quand ils sont vraiment, vraiment au bord de se noyer.
Et cette crise montre aussi les limites, pour ne pas dire plus, de la Libye, en fait, du contrôle de la Libye, qui n'est plus un État, en fait, qui est partagé, en tout cas.
Ce qui est intéressant quand on observe un peu sur le temps long, je parlais du temps long tout à l'heure à propos d'Alternative Internationale, c'est qu'on s'aperçoit que les différentes routes qui existaient depuis une dizaine ou une quinzaine d'années ont été fermées les unes après les autres, grâce à des opérations, etc. La route des Canaries, la route de Gibraltar, la route entre la Grèce et la Turquie, les routes qui venaient d'Égypte ou de Tunisie. Bon, donc maintenant, par où passent les gens? Ils passent par la Libye. Pourquoi? Parce que la Libye, c'est le chaos, qu'on peut rentrer en Libye, qu'il y a des réseaux de trafiquants qui sont organisés, dont certains sont en lien avec les milices qui se disputent la Libye. Donc, il y a là, je dirais pas un no man's land, mais en tout cas un État failli qui permet aux routes de passer. Mais je suis persuadé que même si on résout le problème libyen, les réfugiés.
Une autre route apparaîtra
inévitablement.
Yann, on va marquer une pause. Yann Mince, on va marquer une pause et on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté quelques nouvelles du monde. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour vivre 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Beldic.
Nous sommes en compagnie de notre ami Yann Mince, le rédacteur en chef du magazine Alternative International, l'excellent magazine Alternative International. Dans quelques minutes, destination l'Afrique, nous partirons pour la Guinée notamment. Rendez-vous également avec vos messages, bien entendu. Mais d'abord, quelques mots sur l'actualité française, avec d'abord un attentat évité de justesse, semble-t-il, au début de la semaine en région parisienne, grâce à l'arrestation dimanche d'un étudiant de nationalité algérienne, Guilhem Deltaï.
Pour un simple blessé, son comportement intriguait les policiers. Les forces de l'ordre fouillent alors sa voiture et découvrent une kalachnikov, deux pistolets et des munitions. L'homme est placé en garde à vue et la piste terroriste commence à se dessiner. François Molins, c'est le procureur de Paris.
Poulet de cette garde à vue, une perquisition était effectuée à son domicile qui permettait notamment la découverte, donc dans ce domicile, de trois fusils d'assaut kalachnikov, un chargeur d'un approvisionné, trois cartouchières vides, des documents en langue arabe évoquant les organisations terroristes Al-Qaïda et État islamique.
Les enquêteurs découvrent aussi que ce jeune étudiant était en contact avec une personne en Syrie qui lui donnait des conseils pour commettre un ou des attentats contre des églises. L'homme bénéficiait donc d'au moins un complice et en avait peut-être d'autres encore, dit François Molins.
Les investigations vont maintenant se poursuivre. Elles visent notamment à déterminer les éventuelles complicités dont il a pu bénéficier, s'il a pu agir sur instigation de qui et dans quelles conditions, ses sources de financement, la provenance des armes saisies enfin.
Dans ce dossier, une autre personne a d'ailleurs été interpellée lors d'une opération de police à Saint-Dizier, ville où le suspect a vécu.
Et cet étudiant est aussi soupçonné d'être le meurtrier d'une jeune femme dimanche. Revoici la politique africaine de la France à la mode socialiste, cette fois une indiscrétion de l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné. Nous apprend qu'un rapport parlementaire, rapport d'information sur cette question a été dévoilé et la présidente de la commission des affaires étrangères, Elisabeth Guigou, a décidé de le retoquer, comme on dit, car il ne lui plaisait pas. Sonia Rollet.
Selon les propos rapportés par Le Canard Enchaîné, le président UMP de cette mission d'information, Jean-Claude Guibal, et son rapporteur socialiste Philippe Baumel auraient notamment qualifié le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, de véritable ministre de l'Afrique. Les deux députés considéraient également que les interventions militaires françaises successives n'apporteraient pas d'apaisement durable et auraient entre autres épinglé le président camerounais Paul Biya, qualifié son régime d'illégitime, né de la répression. Je souhaite que sur ce rapport, il y ait une réécriture et un nouveau débat avant sa publication, a déclaré RFI François Loncle, membre socialiste de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée, qui n'était pourtant pas présent lors de l'audition de mercredi dernier. On peut être afro-réaliste, on n'a pas de politique de développement digne de ce nom, on ne peut pas rester sur le tout sécuritaire, explique quant à lui Pouria Amirchaï, député socialiste des Français de l'étranger qui lui était présent. Dans un communiqué, Elisabeth Guigou, la présidente de la commission des affaires étrangères, parle pour sa part d'éclairage inexact du Canard Enchaîné, dit avoir salué lors de cette audition la qualité du travail effectué, bien que je cite, d'une tonalité trop pessimiste. L'ancienne garde des Sceaux dit partager bon nombre de constats, mais estime, je cite encore, que la commission des affaires étrangères devrait avoir à propos de la vie démocratique des États africains un discours sans complaisance mais mesuré.
Yann Mince, il y a visiblement des vérités qui ne sont pas bonnes à dire dans un rapport parlementaire.
Avec un rapporteur socialiste et une présidente de commission qui est également socialiste, c'est assez drôle effectivement. Ce qui est drôle, c'est que effectivement, Elisabeth Guigou demande d'avoir un discours mesuré sur Paul Biya, qui, sauf erreur, doit être au pouvoir depuis 1983. Je ne crois pas dire de bêtises. On peut penser que, sans être excessif, on peut dire que c'est trop longtemps et qu'il serait peut-être temps que Paul Biya cède la place.
Oui. Alors il y a aussi cette étrange affaire d'attentat déjoué contre une église, semble-t-il. Un jeune garçon étudiant en informatique qui appelle parce qu'il est blessé les secours et qui finalement se fait contrôler et puis voilà.
Il faudra évidemment voir ce que donne l'enquête des services de police et des services de renseignement, mais moi ce qui me frappe quand même, c'est que comme ça au premier abord on n'a pas l'impression que ce soit un réseau vraiment très organisé. Ce garçon se blesse et au lieu d'appeler ses complices pour l'aider, il appelle les services de police qui découvrent le poteau rose assez rapidement. Ça me rappelle dans un genre, hélas évidemment beaucoup plus tragique, la cavale des frères Kouachi après les attentats de Charlie Hebdo, qui fuient Paris puis qui reviennent vers Paris. C'est pour ça que je suis toujours un peu dubitatif avec cette idée qu'il y a des réseaux organisés extrêmement...
Il y avait, semble-t-il, un interlocuteur en Syrie.
Dit-on. Oui, mais ça, c'est pas très difficile d'avoir un interlocuteur en Syrie, grâce, hélas, ou grâce aux réseaux sociaux. On peut assez facilement rentrer en contact avec avec des djihadistes en Syrie. Un certain nombre de journalistes, y compris des journalistes de RFI, je crois, c'est-à-dire, sont en contact pour faire un travail de journalisme avec avec un certain nombre de ces combattants. C'est pas très compliqué d'obtenir des conseils. La question, c'est de savoir si ça répond à des organisations, à des réseaux, ou simplement à des petits groupes, une, deux, trois, quatre personnes. Très honnêtement, ça ne fait pas très, très organisé comme ça, a priori, sous bénéfice d'inventaire de l'enquête, évidemment.
Yann, rédacteur en chef d'Alternative Internationale, vous signez comme dans chaque numéro l'éditorial, et là, vous parlez du président et des rafales, du président français.
Oui, parce que le président français a fait une longue déclaration il n'y a pas très longtemps sur la politique de dissuasion nucléaire française, dans laquelle il fait une introduction stratégique et il parle d'un certain nombre de zones de crise dans le monde, qui sont des zones de tension, etc. Alors moi, ce que j'observe, c'est que récemment, la France s'est félicitée de la vente enfin, pour l'exportateur, puisque et aussi pour le contribuable, d'ailleurs, de rafales français, donc d'une part à l'Égypte, d'autre part à l'Inde. Et moi, il me semble que ces deux pays-là sont des pays qui se trouvent dans des zones de tension, justement, qui inquiètent le président. Je trouve ça un peu contradictoire de la part de la France de dire il y a des zones de tension très préoccupantes, et ensuite de vendre des armes, fût-ce des rafales, avec beaucoup de difficultés, dans ces mêmes zones de tension. Je trouve que c'est très contradictoire.
Et l'éditorial s'intitule « Des blagues en rafales ».
Oui,
c'est votre humour.
C'est même pas moi qui ai trouvé le titre, en l'occurrence.
Sept jours en Afrique.
Et nous partons, Yann, pour l'Éthiopie. Des dizaines de milliers de personnes ont participé mercredi à une manifestation organisée par le pouvoir contre l'organisation de l'État islamique responsable, on le sait, de l'exécution de chrétiens éthiopiens en Libye. Reportage à Addis Abeba de Karim Lebourg.
La manifestation était organisée par le gouvernement contre l'État islamique, mais elle a aussi permis aux Éthiopiens d'exprimer leur colère alors que le pays a décrété 3 jours de deuil national. Notre sang n'est pas de l'eau, dit ce manifestant. En France, quand 6 journalistes ont été tués, toutes les nations se sont réunies. Pour nous, quand 30 de nos frères sont tués, on ne voit pas de Nations Unies. Le mot d'ordre de ce rassemblement était unité et recueillement, mais dans la foule, des groupes de manifestants ont pris à partie le pouvoir éthiopien, jugé inactif, alors que des Éthiopiens meurent brûlés en Afrique du Sud, égorgés en Libye ou noyés en mer. Assez de discours, assez de propagande pouvait-on entendre, tandis que le Premier ministre et les Mariam Dessalegn prenaient la parole pour proposer d'aider les migrants à revenir. La manifestation s'est terminée par quelques bousculades et des jets de gaz lacrymogène entre la police et de jeunes manifestants. D'autres scandaient « Non à l'immigration, nous devons changer ce pays en restant chez nous ».
Suite d'une semaine d'actualité en Guinée, cette fois, il y a eu de nouveaux affrontements à Conakry lundi et dans le reste du pays jeudi. Lors d'un voyage à Paris mercredi, le président Alpha Condé a implicitement rejeté tout changement de date de l'élection présidentielle qui est au cœur, on le sait, des revendications des manifestants. Binetta Diagne.
Ce jeudi, Conakry était une ville morte. Les commerces et les marchés étaient fermés, les forces de sécurité déployées dans plusieurs endroits de la capitale. L'opposition a du coup organisé une série de marches spontanées dans plusieurs communes. Des militants des droits de l'homme décrivent des scènes de brutalité. De même, les leaders de l'opposition déplorent les violences survenues pour encadrer cette mobilisation. C'est Loud Alain Diallo, le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée.
La répression s'est fait fois dans les quartiers, réputés fiefs de l'opposition, où on va, on procède aux arrestations des enfants, aux violentes des femmes. Il y a une quinzaine de blessés par balle qui sont aujourd'hui dans les établissements hospitaliers. À l'abbé, il y a eu un mort, un jeune qui a été bastonné par les policiers.
Pour le gouvernement, l'objectif, c'était surtout de sécuriser la capitale. Selon Rachid Ndiaye, le conseiller spécial du président Alpha Condé, les manifestants n'avaient pas d'autorisation. Ce responsable conteste par ailleurs l'ampleur des violences décrites par l'opposition.
Les forces de l'ordre ont pris des mesures techniques pour prévenir les actes de violence qui serait donc préjudiciable à la sécurité des habitants de Conakry, de l'intérieur du pays. Les forces de l'ordre n'étant pas armées, n'utilisant pas des balles contre les populations, je crois que sur cette question-là, ça relève beaucoup plus aujourd'hui quand même de la surenchère que de la réalité.
Ce conseiller du président assure que le calendrier électoral sera maintenu. De son côté, l'opposition entend se mobiliser de nouveau et lancer des recours auprès de la CDAO.
Notez aussi dans l'actualité africaine des incursions de l'armée du Rwanda en RDC, dans le parc des Virunga notamment.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Un salut aujourd'hui à Noël Souma Junior à Moundou, au Tchad. Nous vous écoutons sur le campus de l'université, écrit-il. Merci. Il salue tous ses amis. Bonjour à Vital, à Yaoundé. Bonjour à Rech, à Brazzaville. Il salue les journalistes de RFI et tous les Congolais à travers le monde, surtout ceux d'Afrique du Sud, dans le collimateur, écrit-il, d'ingrats xénophobes. Bonjour à Siradio en Guinée, furieux, car ceux qui contrôlent les émetteurs coupe le signal dès que RFI parle de la Guinée. C'est dommage qu'un gouvernement ne mise que sur l'ignorance de son peuple, écrit-il. Bonjour à Akimo, doctorant en sciences de l'éducation de l'université de Lomé et fidèle, lui aussi auditeur de RFI. Je profite de votre émission, écrit-il, pour rappeler tous les Sud-Africains à la retenue et à la sagesse pour préserver l'héritage de Nelson Mandela. Enfin, un bonjour à Alassane Abobo Dioulasso. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Yann Mince qui suit, et ça va de soi, l'actualité africaine de très près. Vous êtes un Africain aussi, Yann, depuis des années. C'est un continent que vous aimez, il faut le rappeler.
Oui, oui, où j'ai eu l'occasion de me rendre quelques fois, effectivement.
Alors la Guinée, on va commencer par la Guinée. Des manifestations sporadiques et parfois très violentes.
Oui, malheureusement, il y a une tradition, entre guillemets, depuis quelques années en Guinée, de manifestations qui tournent mal. Je crois que le président Alpha Condé est victime du syndrome de ceux qui ont été trop longtemps dans l'opposition, c'est-à-dire que maintenant, il a très peur de perdre le pouvoir, effectivement. Ses adversaires politiques, et notamment Séounadin Diallo, le soupçonnent de vouloir organiser l'élection présidentielle à sa façon, avec les gens qui sont actuellement en poste dans les collectivités locales, donc il voudrait bien que les élections dans les collectivités locales pour changer ses responsables et ensuite organiser l'élection présidentielle.
Visiblement, la présidentielle prévue en octobre, si tout va bien.
Si tout va bien. Là aussi, il y a une tradition en Guinée de repousser les scrutins. Je crois que beaucoup de pays de la région, de la sous-région, comme on dit en Afrique, observent ce qui se passe en Guinée. C'est une transition après un très très long régime autoritaire de deux présidents successifs et une période un peu chaotique ensuite. On peut espérer que les Guinéens trouveront la sagesse de régler les questions de façon pacifique et que le président Condé entendra le fait que la démocratie, ça veut dire l'alternance, le risque de perdre les élections.
Alors il y a aussi cette manifestation en Éthiopie, assez singulière, il faut l'avouer.
Les manifestations en Éthiopie, en l'occurrence, est organisée, j'ai bien compris, par le régime.
L'État, oui.
C'est plus facile de manifester en Éthiopie quand c'est organisé par le régime que quand c'est pas organisé par le régime. L'Éthiopie n'est pas vraiment un régime démocratique. On parle assez peu de la vie politique intérieure éthiopienne à l'extérieur, mais c'est loin d'être une démocratie. Évidemment, les Éthiopiens ont été extrêmement choqués, comme l'avaient été avant eux les Égyptiens, par ces exécutions qui ont eu lieu en Libye. C'est décapitations de chrétiens qui sont décapité en tant que chrétien. Il faut être bien clair là-dessus, pour l'État islamique, c'est clairement des attentats contre des gens d'une confession différente. Il est évident que les Éthiopiens sont choqués. Je suis frappé aussi de voir dans les slogans de la manifestation qu'il y avait un peu de tout, les problèmes de migration, les violents xénophobes en Afrique du Sud, et certains de vos éditeurs qui ont laissé des messages sont sensibles à cette question. Alors, en France, on en parle relativement peu de xénophobes en Afrique du Sud, mais je pense que ça a un très grand impact dans l'ensemble du continent, à la fois parce que beaucoup de pays africains ont des migrants en Afrique du Sud, et aussi parce que l'Afrique du Sud était censée être le pays de l'africanité, etc., et de la fraternité entre les gens à la peau noire, et pas seulement à la peau blanche.
Ouais. Et souvent les auditeurs de RFI, en tout cas ceux de l'émission, nous écrivent à propos de ces émeutes xénophobes. Il y a une réelle inquiétude.
Bien sûr, il y a une inquiétude, parce que c'est extrêmement violent, et vous avez vu que le roi des Zoulous, dont une déclaration visiblement avait mis le feu aux poudres, a rétropédalé en disant qu'on avait mal compris ce qu'il avait voulu dire, mais il y a une vraie responsabilité, et c'est pas seulement en Afrique du Sud, un peu partout, il y a une vraie responsabilité des élites au sens large de ne pas jeter de l'huile sur le feu et de faire des appels xénophobes. Malheureusement, en France, on a ça aussi.
RFI.
Et nous allons parler, Yann, de l'Afrique qui vote. Les Togolais choisissent aujourd'hui leur président parmi 5 candidats, dont le président sortant, Faure Gnassingbé, et le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Les attentes des Togolais sont grandes et l'emploi est au cœur de leurs préoccupations. Reportage dans la capitale, Olivier Roger.
Nous sommes au cœur du grand marché de Lomé, l'endroit qui a vu naître les fameuses Mama Benz, ces commerçantes togolaises devenues emblématiques. Aujourd'hui, le marché de Lomé fait grise mine. L'incendie de 2012 et la crise économique sont passés par là. Delany a 20 ans de commerce derrière elle et peu de perspectives d'avenir.
Nos enfants sont à la maison, avec la maîtrise, avec le doctorat, les taxis, motos, il y a d'autres qui font l'aide-maçon, il n'y a pas de travail. Nos enfants sont à notre charge, leurs enfants aussi sont à notre charge. Ça fait presque 20 ans que je suis là, je n'ai pas un fonds, il y a seulement régression, il n'y a pas d'avancement.
Le travail, c'est aussi le leitmotiv des jeunes diplômés reconvertis en vendeurs, comme ce jeune homme.
Moi j'ai une licence en communication, mais je suis au marché, je vais avec des boubous au marché avec mon maman. Vous voyez le problème de l'emploi au Togo? Est-ce que vraiment arriver au pouvoir, est-ce qu'ils vont nous donner de l'emploi comme ils le disent? C'est ça notre préoccupation.
La demande sociale est forte et les multiples grèves depuis le début de l'année ne sont pas le fruit du hasard.
On n'a qu'à payer les enseignants, les fonctionnaires, on n'a qu'à augmenter les salaires, on n'a qu'à augmenter les emplois. C'est ça qu'on veut.
Au grand marché de Lomé, les citoyens ne s'attardent guère sur les programmes exposés par les 5 candidats à la présidentielle. Leur priorité, c'est avant tout l'emploi.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, l'Afrique qui vote toujours, les électeurs du Bénin votent justement demain à l'occasion des élections législatives. Il s'agit pour eux de renouveler les 83 députés qui vont siéger pour 4 ans dans un grand désenchantement, semble-t-il. Correspondance jeudi de Delphine Bousquet.
Les électeurs rencontrés à Cotonou attendent de leurs députés qu'ils les représentent tout simplement, qu'ils votent des lois qui répondent à leurs préoccupations, santé, éducation, emploi, foncier. Pour Ferdinand, étudiant, c'est l'immobilier.
À Cotonou, le loyer est cher. Chaque propriétaire fixe le taux qu'il veut. Et même des fois, ils augmentent le loyer sans même avertir le locataire. Il n'y a pas une loi qui cadre cela. Donc s'ils peuvent voter des lois allant dans ce sens, ce serait bien.
Ils veulent aussi que ça change. Les députés, dont certains passent d'un camp à l'autre, ont perdu beaucoup de crédibilité. Christelle va les sanctionner.
Je pense que la majorité de la population en a marre. On attend un changement de mentalité. On veut une génération renouvelée. On ne veut plus des affairistes, en fait, et qu'ils aient un minimum de conscience et un minimum de patriotisme.
Moussa, 53 ans, dit qu'il votera pour la première fois avec son cœur.
Depuis que les campagnes ont commencé, ils commencent à distribuer l'argent. J'ai dit non, je ne veux pas. Les députés, ils ne font que penser leur intérêt personnel, pas les populations. On les vote, ils vont à l'hémicycle, ils ne font que ramasser l'argent, envoyer les enfants en Europe. Nous sommes là, on souffre.
Cette défiance à l'égard du personnel politique est uniquement béninoise. Hein,
hélas non. Malheureusement, c'est un mal démocratique qui est triste. C'est que...
Mais quel désenchantement quand même, vous avez entendu hein.
Oui, c'est un désenchantement très fort et c'est d'autant plus triste dans le cas du Bénin qu'à l'instar de l'Afrique du Sud dont je parlais tout à l'heure, mais dans un autre genre, le Bénin, moi je m'en souviens, il y a 20 ans, a donné une leçon à l'Afrique avec la première conférence nationale, avec ces excuses très impressionnantes demandées par le président Kérékou. C'est rare qu'un homme politique, un président, qu'un autocrate comme l'était Kérékou, mais c'était pas le plus sanguinaire, demande des excuses à son peuple et ensuite se retire du pouvoir. C'est un exemple très important. Les autres conférences nationales, malheureusement, des années 90 n'ont pas donné toutes de résultats aussi reluisants. C'est triste que 20 ans après, les Béninois soient déjà déçus de leur classe politique. En même temps, la question, c'est toujours la même. C'est qu'est-ce qu'on attend de l'État? Qu'est-ce qu'on attend de la puissance publique? Je comprends que pour beaucoup de Béninois, il y ait des attentes importantes. Malheureusement, peut-être, il faut pas en attendre trop toujours de la puissance publique et de l'État, même dans un pays aussi peu favorisé que l'est le Bénin.
Et vous, dans Alternative Internationale, Yann Mince, votre journal rend hommage à un journaliste béninois dont on a parlé ici, car il a fait un peu de bruit, Ozias Sounouvou, qui a osé interpeller son président, le président du Bénin, Boniface.
Oui, et c'était juste au moment des attentats de Charlie Hebdo, le président béninois est venu
le 12 janvier
exactement à la manifestation à Paris pour défendre la liberté d'expression. Et Ozias Sounouvou, qui est un journaliste de la télé publique béninoise, a rapidement, le soir même, je crois, ou le lendemain, dit que ce serait bien effectivement que cette liberté d'expression s'applique au Bénin et notamment pour les journalistes de la télé publique béninoise, qui étaient très gonflés. Alors évidemment, il a pu le faire au Bénin, parce que le Bénin est un régime démocratique imparfait, certes, mais en tout cas, ça n'est pas... Au Cameroun, ça n'aurait pas été possible, par exemple, on parlait tout à l'heure. Je pense que c'était beaucoup plus compliqué pour un journaliste camerounais, et ne sans parler d'un journaliste éthiopien, pour reprendre des exemples que cités dans l'émission.
Voire érythréen.
Alors érythréen, je ne sais même pas s'il y aurait pensé. Donc, effectivement, Ozias Sounouvou l'a fait, ça a beaucoup surpris. Je crois que depuis, dans sa carrière, il y a quelques petits soucis, mais en tout cas, il n'a pas été embastillé, comme ça aurait été le cas dans d'autres pays africains. quotidien. Et c'était un appel qui a forcément marqué les esprits, même dans un pays où, je le dis, je le répète, ça se passe plutôt beaucoup mieux que dans d'autres en Afrique.
Alors ça, c'était les élections au Bénin. Yann Mince, parlons du Togo maintenant, élection présidentielle cette fois, 20 candidats.
Voilà un scrutin avec assez peu de surprises. Oui. Je serais très étonné que le candidat de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, puisse l'emporter.
Sait-on jamais ?
On ne sait jamais. On peut espérer que l'alternance... Parce que là, ce serait une vraie alternance quand même. La famille du président Faure est au pouvoir depuis 1967, je crois. Là, c'est un peu comme pour Biya. Alors, ce n'est pas le même président, c'est son fiston qui a pris la suite, puisque la suite de Nassimbé. Mais peut-être qu'il serait temps que la famille Nassimbé cède le pouvoir enfin.
Alors, dans ce dernier numéro d'Alternative Internationale, le numéro 66, il y a, comme dans tous les numéros, des dossiers dits de société sur les grandes questions du moment. Et là, vous avez une question sur le tourisme équitable. C'est un tourisme qu'on ne connaît pas bien, mais qui se développe.
Alors, c'est un tourisme qui se développe un peu à la manière du commerce équitable.
À qui profite le deal ? C'est le titre du dossier. Le deal, D-E-A-L.
D-E-A-L, d'accord, oui. L'échange, disons. C'est un peu le même principe que pour le commerce équitable. C'est-à-dire, il s'agit de savoir si on peut acheter un service là et non pas un bien. Dans le cas du commerce équitable, c'est le café, par exemple, ou les bananes. En étant sûr que celui qui le produit est rémunéré de façon correcte. Dans le tourisme, c'est pareil. Est-ce que globalement, quand on va dans un séjour, dans un hôtel, dans un pays africain, on est sûr que les gens qui travaillent dans cet hôtel sont rémunérés de façon correcte. Donc là, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le tourisme dit solidaire. Là, on va non seulement dans le pays, mais on va essayer de rencontrer la population. On va dans des villages pour essayer de partager un peu de temps, de journée avec les populations. C'est déjà un peu plus compliqué à mon sens, parce qu'effectivement, il peut toujours y avoir une part de mise en scène dans cette histoire. Je pense qu'une partie des touristes sont à la recherche d'une prétendue authenticité africaine. Or, l'Afrique, c'est comme partout, ça bouge, ça change.
Ça évolue.
Effectivement, la vie dans les villages aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 30 ans. Et en plus, l'Afrique est un continent largement urbanisé. Et je pense que le tourisme solidaire se passe plutôt dans les campagnes, c'est un peu plus folklorique. Il y a là-dedans beaucoup de bonnes intentions. Il y a là-dedans aussi beaucoup de bonnes choses, parce que dans le tourisme équitable, notamment, je trouve très bien que les consommateurs se préoccupent de la rémunération de ceux qui travaillent pour eux. Maintenant, il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions sur ce que peut être la sincérité, la profondeur de rencontres qui sont quand même organisées, disons-le, dans un cadre commercial.
Alors, il y a un autre dossier dans la rubrique Comprendre, dans Alternative Internationale, Yann, un dossier sur les pêches. Pas la pêche, les pêches. Et ça va intéresser aussi nos auditeurs africains.
Oui, bien sûr, puisque la pêche est un secteur très important pour l'économie africaine. Beaucoup de pays en vivent et beaucoup de pays aussi ont du mal à en vivre, parce que l'exploitation de la pêche industrielle par des bateaux qui viennent d'autres pays que l'Afrique ont raclé les côtes. L'exemple le plus caricatural de ça, c'est la Somalie, où effectivement, depuis la chute du régime de Siad Barré et l'anarchie qui s'en est suivie dans les années 90 et 2000, tout un tas de bateaux étrangers ont profité pour racler les eaux territoriales. Et ça a favorisé, je ne dis pas que ce soit la seule cause, mais ça a favorisé le développement de la piraterie, ce qui est évidemment le cas extrême de la dérive, mais quand même. Or, la pêche et les ressources halieutiques, que ce soit par la pêche ou que ce soit par l'élevage de poissons, sont une des ressources pour demain, pour l'alimentation du monde.
Alors autre chose, parce qu'il y a beaucoup de photos aussi dans votre magazine, Yann, un dossier avec photos sur Nauru.
Oui, alors Nauru, c'est une île du Pacifique qui n'est pas très connue, qui vivait de l'exploitation de mines pendant longtemps, qui sont aujourd'hui épuisées, et qui aujourd'hui, après avoir vécu sur un grand pied grâce à l'exploitation de ces mines, se trouve dans une situation beaucoup plus précaire, et qui sert à l'Australie pour quelque chose qui nous ramène à la politique de migration dont on parlait tout à l'heure. Les Australiens ont une spécialité, quand des bateaux arrivent vers leur côte, ils les repoussent et ils transfèrent ceux qui essayent d'immigrer en Australie, vers d'autres pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou Nauru, que les Australiens payent, en gros, pour traiter les demandes d'asile, et si jamais l'asile est accepté, que les migrants qui voulaient venir en Australie se retrouvent à Nauru ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui fait une espèce de ressource un peu étrange avec des Syriens, des Afghans qui se retrouvent là perdus dans cette île du Pacifique dont les Australiens ne voulaient pas, donc ils se trouvent là, et ils se trouvent là sans ressources, sans rien, perdus au milieu de nulle part, si je peux dire.
Et il y a aussi, évidemment, dans Alternative Internationale, des dossiers culture, société, avec notamment quelques pages sur le flamenco, mais pas simplement en Espagne.
Et en l'occurrence, même surtout pas en Espagne. L'idée, c'était de montrer que même une musique aussi typée que le flamenco trouve des artistes, des émules dans d'autres pays que l'Espagne. Et là, en l'occurrence, il y a une chanteuse japonaise qui est d'ailleurs très impressionnante à entendre et à voir parce qu'elle elle chante vraiment comme si elle était andalouse.
Une chanteuse lituanienne.
Lituanienne, ce qui est encore pas plus improbable, ouais. Mais également improbable.
Je ne connaissais pas le flamenco lituanien, à vrai dire.
Mais à vrai dire, peu de gens le connaissent, même en Lituanie, parce qu'il y a pas beaucoup de spécialistes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que certaines musiques ne peuvent être interprétées que par des gens qui sont nés dans le pays. Alors, ces artistes disent que c'est plus difficile quand on n'a pas grandi dedans. C'est plus difficile d'acquérir le flamenco quand on a grandi au Japon. Mais en même temps, c'est pas complètement impossible. Et quand on voit cette japonaise, cette lituanienne, ce guitariste hollandais ou ce couple de danseurs israéliens, on s'aperçoit qu'en fait, on peut, comme disent les anthropologues, s'inculturer, c'est-à-dire s'approprier, y compris un genre musical aussi typé que le flamenco. Mais c'est vrai pour la salsa. Je me souviens avoir vu des orchestres de salsa japonais ou des orchestres finlandais de tango, qui sont des musiques qui a priori sont très très attachées à un terroir. Eh bien non, la mondialisation c'est aussi ça. On peut prendre la musique des autres et essayer de l'interpréter.
Merci Yann Mince. Il y a décidément plein de surprises dans votre magazine. Il faut lire donc Alternative Internationale. Le numéro 66 est dans tous les kiosques et sur les tablettes, version numérique très importante. Merci Yann.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée par Sophie Janin. Retrouvez cette émission sur le site de la radio RFI.fr. Rendez-vous demain pour notre magazine Idées, bien sûr. Nous parlerons des philosophes arabes, figurez-vous, Yann, avec notre invité Ali Ben Makhlouf, lui-même philosophe. Demain, dimanche, évidemment, à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.